RFI, grand reportage,
Amélie Tullet.
Bonjour à tous. Dans l'océan Indien, le trafic de drogue a atteint un tel niveau à Maurice que chaque famille de l'île est directement ou indirectement vulnérable. C'est la conclusion d'une commission d'enquête qui a travaillé sur les réseaux de trafic pendant 2 ans. Elle a mis au jour les failles du système de surveillance, révélé les modes de corruption et appelé à une série de décisions, notamment des investigations sur 11 avocats, 8 policiers et 18 gardiens de prison. Maurice, le trafic de drogue fait rage, les autorités sont dépassées. C'est un grand reportage d'Abdoulaye Rally.
Depuis qu'il a pris les commandes du pays, Pravin Jugnauth ne rate pas une occasion publique pour rappeler sa promesse politique. En finir avec le trafic de drogue, le fléau numéro 1 dans le pays. Ce jour-là, il prend la parole dans une cérémonie religieuse hindoue, vêtue à l'occasion d'une kurta, le vêtement traditionnel indien. Le discours sonne comme un engagement politique et moral.
Sur la drogue, je vais être bref, parce que les gens connaissent ma conviction, ma sincérité. Quand vous vous attaquez à la mafia qui a amassé des milliards pendant des années, elle utilise ses moyens financiers, sa puissance et surtout ses connexions dans plusieurs sphères. C'est là le danger pour Maurice. Mais cela ne me ralentira pas. Vous verrez à l'avenir, encore une fois, ma détermination. Nous allons nettoyer le pays pour protéger nos familles et nos enfants contre ce fléau.
Parole donnée, parole tenue, en partie tout au moins. Le vendredi 27 juillet de cette année, le chef du gouvernement est dans son bureau, mitraillé par les photographes.
Ok, ben, bienvenue à tous mes camarades journalistes de la presse écrite et parlée.
Seul face à la presse, il s'apprête à faire une annonce majeure. La commission d'enquête sur la drogue a bouclé ses travaux et remis son rapport à son bureau, un document de 300 pages, l'heure de vérité, après 2 ans d'enquête dirigée par un ancien juge de la Cour suprême, Paul Lamchanlin, assisté notamment de Samiullah Lotan, ancien ministre, chantre du combat anti-drogue. C'est la 2e fois de son histoire que Maurice crée une commission d'enquête sur la drogue. Cette fois, la pieuvre est devenue nettement plus dangereuse. En croire les propos du Premier ministre Pravin Jugnauth.
Quand nous finissons au gouvernement, tout le monde connaît qu'une de nos priorités.
Quand nous sommes arrivés au pouvoir, tout le monde savait qu'une de nos priorités était le combat contre le trafic de drogue. La raison est simple, parce que l'ampleur considérable de la drogue à Maurice, je dois dire, avait atteint son apogée.
Le chef du gouvernement évitera les détails, mais ses phrases lâchées traduisent la gravité du moment.
Il y a des choses qui ne peuvent se dire en public. L'influence qu'a la mafia est effrayante. Quand j'ai vu comment certains ont continué à faire leurs activités, et je ne parle pas de millions de roupies, mais de milliards accumulés. Évidemment, ce n'est pas un réseau limité à Maurice. J'irai même plus loin, en disant que certains voulaient faire venir des armes à Maurice.
Et on parle plus loin pour dire qui est nain peut faire trafic pour amener des armes dans Maurice.
Nous sommes tous vulnérables, ajoutera aussi le Premier ministre. Cette affirmation, nous la retrouverons également dans le rapport de la commission d'enquête. Page 31 du rapport d'enquête, on peut lire « Compte tenu de l'ampleur de ce phénomène, chaque famille mauricienne est directement ou indirectement en danger. » Les Mauriciens ont encore en mémoire les années sombres, les années 80, marquées par l'arrestation de 3 députés mauriciens à Amsterdam pour trafic de drogue. Aujourd'hui, le trafic est reparti de plus belle, au point que selon les mots mêmes du Premier ministre, ceux qui le contrôlent peuvent déstabiliser un gouvernement. Pravin Jugnauth ne croyait pas si bien dire. Les révélations du 27 juillet dernier secouent en premier son camp. 3 proches de la majorité sont cités dans le rapport de la commission anti-drogue. Leur point commun, ils sont tous avocats et politiciens. Leur poste, ministre de la Femme, vice-président de l'Assemblée nationale et président jusqu'à tout récemment de l'agence régulatrice des jeux à Maurice. Premier psychodrame, 2 membres de la majorité démissionnent. La ministre de la Femme, Robina Jadou, et le vice-président de l'Assemblée nationale, Sanjeev Tilak Dari. Ils sont soupçonnés d'avoir été l'interface entre des prisonniers trafiquants de drogue et le monde extérieur. Rejetant ces soupçons, ils jurent de laver leur honneur devant une cour de justice.
Très très grave ce genre d'allégation. Peu importe les spéculations et les dires, j'étais et je le suis une avocate de principe.
La façon qu'il est fait à cette commission d'enquête, pas d'accord,
Je ne suis pas d'accord avec la manière dont cette commission d'enquête a été menée. Je ne suis pas d'accord avec ses conclusions. J'envisage de demander une révision judiciaire pour rétablir ma réputation d'avocat.
Comme un sursaut contre le trafic de stupéfiants, depuis la création de la commission d'enquête, le pays a assisté à des saisies records et de nombreuses arrestations. L'année dernière, la police a effectué plus de 2000 arrestations et saisi un volume historique de drogue évalué à 3 milliards de roupies, soit 75 millions d'euros, un chiffre qui représente un quart du budget annuel consacré à la santé à Maurice. Ces saisies records n'ont pas pour autant réduit l'offre sur le marché. Depuis les années 2000, Maurice est régulièrement classé par l'Office des Nations Unies contre le crime et la drogue, premier pays du continent en matière de consommation d'héroïne et de ses dérivés. Pourtant, le nombre d'habitants est peu élevé ici, 1 300 000 seulement. Alors, où vont ces cargaisons d'héroïne et de cannabis qui atterrissent dans l'île? La réponse de l'ancien commissaire au bureau des narcotiques, Ajay Debi.
On ne peut pas faire une relation entre la quantité de drogue qui est saisie à Maurice et la consommation. Donc, où on faisait le plein pour un siècle de drogue dans le sous-sol mauricien, où les drogues potaient. Donc je pense que ça a été bien étudié par les trafiquants.
Mais Imran Danou, figure de la lutte anti-drogue et directeur du centre de réhabilitation Idriss Goumani à Port-Louis, a une autre explication. Il fait allusion à la saisie record en mars de l'année dernière de 135 kilos d'héroïne dans le port en provenance d'Afrique du Sud.
Pour moi, 135 kilos d'héroïne est équivalent à une consommation pour 6 mois pour 10 000 héroïnomanes. Donc ce qui fait que 135 kilos, c'est très peu. Bon, pour les personnes profanes, ils sont peut-être choqués par la quantité, mais au fait, c'est que nous en avons une très grande demande par rapport aux drogues.
Selon un chiffre prudent de la commission d'enquête sur la drogue, Maurice compte 20 000 consommateurs d'héroïne par voie intraveineuse. Et chaque usager s'injecte au moins 4 doses par jour. Elle estime que la consommation d'héroïne engloutit sur le sol mauricien près d'un million d'euros par mois. L'île est-elle une grande consommatrice de drogue ou est-elle un lieu de redistribution? Question qui taraude les observateurs. Mais le nœud du problème n'est pas là, en vérité. Au terme de 2 ans d'investigation, le juge Paul Lamchanlin et ses collaborateurs ont mis à nu les énormes failles du système de surveillance et recommandent une enquête sur 11 avocats, 8 policiers et 18 gardiens de prison. Ils sont allés jusqu'à suggérer la dissolution de la brigade antidrogue elle-même. Ils ont en même temps identifié les filières et les méthodes de blanchiment d'argent de la drogue, comme les courses de chevaux et les casinos. Pour eux, il ne fait aucun doute que des trafiquants, même derrière les barreaux, dirigent des réseaux avec des connexions dans la région et en Afrique notamment. Les récentes arrestations et condamnations confirment la géographie du trafic. Le mois dernier, la justice mauricienne a condamné un avocat ghanéen à 25 ans de prison. En même temps, 2 jeunes zambiennes et une ougandaise ont été arrêtés à l'aéroport avec des boulettes d'héroïne. Mais pour les observateurs avertis, les mules arrêtées sont des sacrifiés pour détourner l'attention et permettent à d'autres passeurs et passeuses de traverser tranquillement au nom d'un trafic ultra juteux qui infiltrait les hautes sphères de la vie mauricienne. Le départ avant l'heure en 2005 de l'ancien commissaire au bureau des narcotiques, Ajay Debi, n'est pas étranger à la puissance du réseau et au relâchement des autorités face à la traque des trafiquants. Ajay Debi.
J'avais finalement une liste de 700 personnes sur qui j'avais rien vu, mais je me suis dit, pendant 5, 10 ans, 20 ans, on va les mettre sous surveillance, parce que pour moi, c'est ça le réseau. Le réseau le plus important, ce n'est pas le commanditaire, le réseau le plus important, c'est le réseau de distribution. Donc je pensais que ce réseau-là le faisait pour des bénéfices. Et ces gens-là allaient émerger comme des trafiquants après. C'est ce qui s'est passé.
Donc, nouvelle génération de trafiquants aujourd'hui?
Oui, ils se trouvaient dans les rues et ils sont devenus des notables.
Quel est ce mal qui ronge le système? Une pratique vieille comme le monde, la corruption, elle a pris une dimension endémique dans l'île.
Je pense qu'il y a eu infiltration au niveau des institutions de sauvegarde, des law enforcement agencies. On n'a pas assez planifié le peuplement de nos institutions. Je parle de toutes les institutions. Je ne vais pas vouloir blesser l'orgueil ni la sensibilité de ceux qui occupent les institutions de l'heure, mais je lui ai dit que j'ai la nette impression qu'on n'a pas fait assez de profiling avant d'offrir des postes de responsabilité aux gens.
Pas assez de profilage criminel ? Mais pourquoi cette affirmation ?
Parce que si, au sein des institutions, les subalternes, les moins qualifiés, ont eu les plus de pouvoir, c'est qu'il y a eu manque de vision, manque de manpower planning.
Manque de planification des ressources humaines.
Évidemment, manque de planification et beaucoup de complicité à un certain moment. Parce que, puisque chacun voulait devenir aussi riche que son prochain, on cherchait les shortcuts.
Donc les raccourcis.
Les raccourcis.
Ouais, ok, mais pas de problème.
Ali Lazer est un grand dénonciateur public des trafiquants de drogue. Il est sollicité à longueur de journée. Il nous reçoit dans son modeste bureau, une ancienne école désaffectée à Port-Louis. Une faiblesse oculaire l'oblige à porter tout le temps des lunettes de soleil. Depuis 45 ans, Ali Lazer est de tous les combats.
Moi, j'ai lancé un défi lors d'un débat à la mairie de Port-Louis où il y avait des hauts gradés du brigade antidrogue. J'ai lancé un défi, j'ai dit, maintenant, vous venez avec moi. Je vais vous amener entier l'île pour vous montrer là où la drogue se vend au-dessus, au vide de tout le monde, quoi.
Et quelle a été leur réaction ?
Ils n'ont pas pris mon défi en considération, mais la drogue se vend au vide aussi de tout le monde.
Dans ce rapport, il y a donc les failles du système, mais aussi un autre élément qui va de pair avec le trafic de drogue, c'est la corruption. Est-ce que ça vous a surpris, Ali Lazer ?
Pas du tout. Depuis le début de mon combat, moi qui vois tous les jours les landes de parents, j'ai dit depuis au début, le plus grand obstacle dans le combat contre le trafic de la drogue, c'est la corruption. Si on arrive à gagner le combat contre la corruption, on gagnera le combat contre le trafic de la drogue. Il y a trop des vendeurs de conscience, des ripoux, des pourris qui sont disposés à vendre leur conscience pour quelques billets de banque.
Quand on lui demande ce qui a retenu son attention depuis la publication du rapport d'enquête sur la drogue, voici sa réponse.
On a vu dans les recommandations de la commission d'enquête qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans le trafic de la drogue. Il y a plusieurs narco-avocats, mais ils travaillent toujours comme avocats. On doit envoyer un message très fort, sinon on retourne à la case départ.
Les effets dévastateurs et les plaies de ces fléaux sont visibles dans les quartiers ouvriers, au sein des populations les moins fortunées, et désormais de plus en plus chez les classes moyennes. À Rosil, la grande ville carrefour de Maurice, le centre de solidarité est un lieu de référence pour le traitement des usagers de drogue. Il a adopté le projet HOM, un modèle italien de traitement de différents types d'addictions. Fondé par l'Église il y a 30 ans, ce foyer constate une mutation du phénomène de l'addiction. Edley Jaimangle, directeur du centre de solidarité à Rosil.
C'est tout le temps les nouveaux cas. Donc il y a des nouvelles personnes qui tombent dans l'addiction. C'est ça le constat qu'on fait. Et en même temps, le rajeunissement, ça nous fait peur parce que le programme que nous avions commencé il y a 30 ans de cela avait une certaine approche parce que c'était des gens de 28, 29, 30 ans. Mais là, nous avons des jeunes de 20 ans, de 18 ans qui viennent.
Le trafic de drogue a provoqué d'autres dysfonctionnements dans le tissu communautaire de Maurice. En 2001, une étude de l'UNICEF et de l'Université de Maurice allait choquer l'opinion publique. Elle révélait l'ampleur de la prostitution infantile dans l'île. Marlène Ladine faisait partie de cette équipe de chercheurs et d'enquêteurs.
Suite à ce survey, nous avons découvert que, effectivement, il y avait pas mal de jeunes d'enfants qui étaient abusés, qui étaient dans la prostitution, dont la grand-mère ou la maman était dans la drogue. Donc, c'était là, pour moi, personnellement, c'était une découverte du lien entre la drogue et la prostitution.
4 ans plus tard, Marlène Ladine lancera avec un groupe de femmes dans le village de Bambou, le centre Chrysalide, un foyer résidentiel de désintoxication pour les femmes. Mais plus le temps passe, plus le phénomène de l'addiction fait de nouvelles victimes et de plus en plus jeunes.
Alors, il y a quelques années de ça, et je dirais, disons, allons dire 5 ans de ça, et la personne a, allons dire, 2-3 ans ou 1 an de toxicomanie quand la personne arrive à 14 ans. Tandis qu'aujourd'hui, il y a 2 ans de ça, allons dire, et la fille a commencé à 10 ans. On a eu 2 enfants ici avec leur maman dans le centre qui ont déjà pris de la drogue de synthèse à 7 ans.
La vie au centre Chrysalide est en perpétuel recommencement. La thérapie, dans beaucoup de cas, est un moment de répit, un palliatif, tant l'addiction est tenace, pour ne pas dire incurable dans beaucoup de cas. La plupart des usagers de drogue font le va-et-vient au centre. Seule une minorité arrive à se défaire de cette emprise, regrette Marlène Ladine, au bout de 14 ans d'existence de Chrysalide.
La thérapie dure presque un an. Donc, en ces 14 ans, on a eu plus de 800 femmes. Et là, je parle d'individuels, je ne parle pas celles qui sont venues à plusieurs reprises. Je retiens les doublons, on a côtoyé plus de 800 femmes.
Et ces femmes, elles ont rebondi dans la vie. Et comment vont-elles?
Alors, allons dire 25%, ce sont celles qui ont rebondi, mais rebondir, vraiment rebondir. Celles qui n'ont pas retouché du tout. Ça existe. C'est rare, mais ça existe.
Rares sont en effet les réussites. Gilberte, 53 ans, revient de l'enfer. Famille éclatée, enfance volée, prostitution et drogue, ensemble avec sa petite sœur, plus fragile, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui.
Tu peux tracer dans le jardin de compagnie.
Je menais une mauvaise vie au jardin de la compagnie. Je me prostituais. Il fallait se prostituer pour pouvoir se droguer. Ma vie ne cessait de se dégrader. Mais je m'étais toujours dit, il faut une solution, il faut cesser cette vie.
Un jour, je me disais, trouver une solution pour m'arrêter.
Gilberte a vécu près de 30 ans dans l'enfer de la drogue et de ses corollaires, avant de s'en sortir, au prix de plusieurs rechutes. Son salut, elle le doit à de nombreux volontaires de plusieurs ONG, et puis au centre Idriss Goumani, à Plaine Verte, Port-Louis. Après une cure de désintoxication suivie d'un traitement à la méthadone, elle a repris ses esprits.
Ils m'ont aidé à trouver du travail. Vraiment, le centre Goumani fait beaucoup pour les drogués. Grâce à ce centre, je fais de l'apiculture. J'ai eu mon certificat, mon permis pour faire de l'apiculture. Je dis chapeau à ce centre de nous avoir ouvert grand ses bras.
Vraiment, et les bras ouverts pour Edman Goumani.
Aujourd'hui, 53 ans, Gilberte s'est mariée, a cessé le traitement à la méthadone, de même que la cigarette et l'alcool. Elle accompagne à son tour des usagers de drogue dans leur parcours de désintoxication. Sa nouvelle vie est une exception. Sa vie antérieure est le quotidien, hélas, de milliers de Mauriciens, hommes, femmes, adolescents, enfants, pris dans l'univers impitoyable de la drogue. Les volontaires engagés dans la lutte anti-drogue plaident une remise en question du modèle de développement de Maurice. Ils appellent en même temps à l'adoption d'un vrai plan de prévention ainsi qu'une remise à plat du système politique. Ali Lazer.
On ne met pas trop l'emphase sur la prévention contre les drogues. Et puis, le problème, c'est que moi, je n'ai pas peur pour dire que les élections, pour les élections, il y a beaucoup d'argent sale qu'on sert pour acheter les consciences des votants.
Les agitations médiatiques et politiques qui ont suivi la publication du rapport d'enquête sur la drogue ne se sont pas apaisées pendant qu'un comité interministériel étudie le rapport pour proposer un nouveau plan de lutte contre la drogue. Mais l'opinion publique commence à douter des capacités des autorités à maîtriser ce monstre social. Elle attend de voir pour croire, car les failles du système révélées par le juge Lam Chan Lin et ses assesseurs restent pour l'heure béantes. L'heure est si grave que la commission d'enquête a recommandé l'émission d'une nouvelle génération de billets de banque et le retrait des vieilles coupures pour étouffer les finances des trafiquants. 3 mois après, la suggestion dort dans un tiroir. Pour Ajay Debi, ancien commissaire au bureau des narcotiques et ancien président de l'Assemblée nationale, la balle est dans le camp des politiques.
Le rapport a créé son lot de pression. Je ne dis pas que ceux qui ont démissionné sont coupables.
Est-ce que vous pensez qu'il faut remettre en question, comme suggéré dans ce rapport, le financement des partis politiques? Beaucoup d'argent sont dépensés à la veille des législatives. Et beaucoup se posent de questions, quelles sont ces sources de financement?
Il faut se le dire, les députés en herbe, les candidats, ne vont pas vendre leurs biens familiaux pour participer dans des campagnes électorales. C'est comme ça ici, et c'est sûrement comme ça ailleurs.
Maurice, le trafic de drogue fait rage, les autorités dépassées. Un grand reportage d'Abdullah Erali, réalisation Pierre Chaffangeon.